Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Je suis Ala, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
Et on travaille toutes les deux au C3RP, une unité du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences.
On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience, et plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement.
Bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement
Eh bien, moi, je suis Jean-Christophe, je suis l'autiste du couple, et j'ai 37 ans et quelques mois. Et à vrai dire, j'ai essentiellement toujours su que j'étais autiste, donc ça, c'est surtout pour Quentin qu'il y a eu de la nouveauté. Je vais le laisser parler.
Bonjour, donc moi je m'appelle Quentin, j'ai 26 ans et je suis l'autre du couple. Pour ce qui est du diagnostic et de la suite, on en parlera peut-être juste après.
Tout à fait, donc première question, qu'est-ce qui vous a mis chacun d'entre vous sur la piste de l'autisme?
Alors, comme je le disais, moi je savais que j'étais autiste, mais j'étais jamais allé chercher le diagnostic vers un professionnel pour des raisons tout à fait chères à mon autisme. Je savais que j'étais autiste parce que, comme tout un chacun, j'ai vu Rain Man et j'ai vu un film où il y avait un être humain tout à fait normal entouré d'êtres humains tout à fait bizarres.
D'accord.
Alors que la plupart des gens, quand ils regardent le film, ils voient le contraire. Et je me suis dit que c'était un signe. Et je me suis un peu renseigné sur l'autisme. Alors vous imaginez ce que peuvent être des renseignements sur l'autisme dans les années 90. C'était bien pourri. Mais malgré ma conviction que j'étais aussi éloigné que possible de ce que pouvait être la description d'un autiste à cette époque-là, j'avais bien conscience du fait que j'étais comme le type à la télé.
D'accord.
Et donc, je n'ai pas dévié du fait que j'étais autiste au sens de Rain Man. Et puis, au début des années 2000, peut-être vers, à la louche, je dirais, vers novembre 2003,
okay.
Le 14, voilà, pour rester à peu près approximatif, un de mes enseignants m'a dit « Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome d'Asperger ?» Et il s'était passé beaucoup de choses entre les années 90 et 2003, et en
ouais.
particulier la page Wikipédia du syndrome d'Asperger commençait à ressembler à quelque chose d'à peu près correct. Bon, à part des absurdités du style « les autistes n'ont absolument aucune imagination » ou je ne sais quelle joyeuseté de ce genre. Donc évidemment, c'est agaçant quand on a envie de se percevoir d'une certaine façon et qu'il y a un article Wikipédia qui vous dit que vous êtes un crétin profond. Mais je cochais à peu près toutes les cases de l'autiste Asperger. Il se trouve que maintenant, je suis un défenseur de l'idée qu'il faut éviter à tout prix de parler d'autisme Asperger. Pour tout un tas de raisons, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a qu'un seul autisme et que voilà, il n'y a qu'un seul spectre autistique. On peut plus ou moins remplir les cases, on peut être plus ou moins sur la droite, sur la gauche, je ne sais pas. En tout cas, vous avez compris. Et donc, en particulier, la distinction saugrenue entre autiste de haut niveau et autiste Asperger me semble plus que désuète, mais totalement absurde. Et en particulier, Temple Grandin, c'est ma sœur, et je vois pas pourquoi on n'est pas dans la même case. Et donc, j'aime pas cette idée-là. Pour ceux qui écoutent, Temple Grandin, c'est la grande amie des animaux, qui est diagnostiquée autiste de haut niveau, et moi j'ai été diagnostiquée autiste Asperger. Et ça me plaît pas. Donc, j'étais conscient d'être autiste, là, il n'y avait plus aucun doute, j'avais même un mot, à cette époque-là je l'acceptais tout à fait, hein. être autiste Asperger. Et je ne voulais pas être diagnostiqué par un professionnel, parce que si je vais voir un professionnel et qu'il me dit « tu es autiste Asperger », je risque de me sentir obligé de cocher les rares cases que je ne coche pas de manière exacte.
D'accord.
Et je crois d'ailleurs que c'est un des symptômes majeurs de l'autisme, c'est le côté hypochondriaque. Si on te dit que tu as une maladie, paf, tu l'as.
Et est-ce que c'est ce qui s'est passé avec toi?
Non, justement. Je ne voulais pas cocher ces cases-là. Et donc, je ne voulais pas me mettre en situation d'avoir quelqu'un qui me dise « tu es autiste » parce que j'avais un peu peur de le faire malgré moi. Et ce qui me poussait à avoir peur de ça, c'est l'horoscope. En fait, je suis le grand ennemi de l'horoscope. Pour moi, c'est une aberration qu'on puisse autoriser les horoscopes dans les journaux. Dire concrètement, quand j'étais petit, la voyance était interdite par la loi. Et je ne m'explique pas comment ça peut être autorisé par la loi de nos jours. On ne peut pas faire commerce de l'avenir. Et bien concrètement, quand dans un journal, quelqu'un te dit « aujourd'hui, tu vas rencontrer le grand amour », et bien cette personne peut potentiellement mettre en danger psychologique des personnes fragiles. Et ça me démonte la tête qu'on puisse autoriser ce genre de choses.
Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé quand même de poursuivre ce diagnostic?
Alors ça, c'est toute une autre histoire. Mais ça arrive après la rencontre de Quentin.
D'accord.
Où cette peur a disparu. Du coup, il est temps d'intervenir.
Quentin, ton point de vue par rapport au diagnostic de Jean-Christophe?
Alors, pour moi, en réalité, il n'y a pas eu d'avant et d'après diagnostic officiel, puisque quand on s'est rencontrés, on a passé un peu de temps ensemble. Et est venu le moment, parce que moi j'aime bien poser des mots très précis sur les relations, donc ce qui n'est pas toujours la meilleure idée du monde, mais on ne se refait pas. Et donc un beau jour je lui dis, bon bah voilà, là on va dire que maintenant on est en couple. Et à l'occasion de cette discussion, il me dit de but en blanc, oui mais alors dans ce cas il faut que je te dise un truc avant.
Okay.
Moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça peut bien être? Et il me dit, bah voilà, moi je suis autiste, donc la vie sera totalement différente avec moi d'avec quelqu'un d'autre. Sur le moment, je me suis dit, bon, oui, enfin très bien. J'avais déjà lu des choses sur l'autisme, mais globalement, j'assimilais ça à juste une personne avec un fonctionnement différent.
Mmh.
Et puis finalement, tout un chacun a ses spécificités. Quand on apprend à connaître une personne qui a ces petites spécificités vraiment personnelles, bah on s'adapte. Donc après tout, que ça vienne d'un syndrome médicalement consacré, ça changeait pas grand chose. Et donc je lui ai dit, bon bah très bien, en gros tu vas fonctionner différemment. Bon, bah, pour moi, juste j'allais apprendre à découvrir quelqu'un qui marchait pas comme les autres. J'y étais pas sensible plus que ça, puisque étant plus jeune, moi, j'avais fait l'objet d'un diagnostic d'enfant précoce, comme on appelait ça.
D'accord.
Et donc, j'avais appris que je ne fonctionnais pas forcément tout à fait pareil que les autres. Ça ne m'avait pas traumatisé outre mesure. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais vivre avec quelqu'un qui ne fonctionne pas non plus tout à fait comme moi, ni comme les autres. Bah, après tout, c'est la vie, donc ça ne m'a pas traumatisé. Ce qui fait que, c'est vrai que pendant la relation, son investissement dans la recherche sur Asperger, sur comprendre ce que c'était, comment ça marchait, le travail sur soi, notamment avec l'aide de neuropsy et de tout un tas de protocoles, dirais-je, au sens large, j'ai pas senti ça comme une ligne de démarcation. En fait, j'ai vu ça seulement comme un progrès personnel, comme on peut décider individuellement d'aller chez le psy, chez l'hypnothérapeute, chez son charlatan ou sa voyante, et du coup, pour essayer de se comprendre mieux soi-même et de fonctionner peut-être de façon plus cohérente avec des individus qui ne font pas, eux, d'efforts particuliers pour la vie en société. Mais donc, j'ai trouvé ça juste comme étant un plus. Ce qui fait que, pour moi, le diagnostic était posé finalement dès le début de la relation. Je l'ai pris pour acquis et après, il n'a été que confirmé.
Par la suite.
Et c'est tout. Donc, je me suis dit que c'était normal, au demeurant, de l'accompagner dans cette démarche qui semblait poursuivre un souhait de bien-être. Et comme c'est un peu l'objectif de rechercher le bien-être de l'autre, je me suis dit que c'était normal de le soutenir.
Et comment s'est passé ce parcours du diagnostic pour toi?
Eh bien, ça a été très rapide. Je pense que pour la plupart des autistes, c'est très lent, c'est un parcours du combattant. Mais il se trouve que j'ai une personnalité assez affirmée. Comme la plupart des autistes, je dis difficilement non.
D'accord.
Est-ce que tu veux nous aider à faire ça? Oui. Est-ce que tu veux prendre la responsabilité de tout ce qui va se passer? Oui. Est-ce que tu veux boire un verre de vin? Non. Un fond de verre de vin? Non. C'est les 60 ans de ton grand-père. Est-ce que tu veux boire un verre de vin? Si tu dis non, il va être malheureux. Je veux toujours pas. Et il y a des points sur lesquels je suis absolument intraitable. On ne me fera pas boire d'alcool.
D'accord.
C'est ainsi. Et parce que ça fait partie de mon affirmation en tant qu'être. Donc cette personnalité affirmée, dans mes trucs très importants, il y a, quand je veux avoir quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Et les choses que je m'autorise à vouloir sont les choses que, qui, à mon sens, me concernent directement. Donc, si j'ai besoin de voir un médecin pour quelque chose, je suis prêt à faire des pieds et des mains pour le voir si j'estime être en danger si je ne le vois pas, et que en forçant pour le voir, je ne mets personne en danger. Donc si le fait de ne pas m'affirmer à ce moment-là peut me mettre en danger sans mettre en danger autrui, bah, je m'autorise
t'affirmer.
Voilà, à m'affirmer et à foncer pour l'avoir. Et en l'occurrence, pour le diagnostic, j'ai un peu forcé. Je suis allé voir une psychiatre qui était a priori spécialisée dans le syndrome d'Asperger. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé Sainte-Anne, mais en tout cas, j'ai appelé Sainte-Anne. Sainte-Anne m'a redirigé vers le privé parce qu'à Sainte-Anne, ils m'ont dit « on est débordé ». Et une fois que je suis allé voir cette psychiatre, j'ai très vite constaté que ça faisait un bien fou de parler des difficultés qu'on rencontre à quelqu'un et que ça servait strictement à rien. À part se sentir bien.
D'accord.
Et certes, se sentir bien, c'est cool, mais je ne suis pas là pour ça. Oui. Moi, je suis là pour que mon fonctionnement ne pose pas problème dans ma vie. En fait, c'est ça qui m'a poussé vers le diagnostic. C'est dans une démarche d'amélioration qualité et pas m'améliorer en tant qu'être humain, je ne pense pas être un mauvais être humain, mais m'améliorer en tant qu'être humain devant communiquer avec d'autres êtres humains. Et de ce point de vue-là, tout n'était pas parfait, disons-le. Là, il y a Quentin qui est en train de sourire nettement, parce qu'il se dit que ce n'était pas parfait avec lui non plus, mais c'était surtout pas parfait avec mes collègues. Je pense que ça, c'était vraiment la grosse difficulté.
C'était principalement une difficulté dans les interactions sociales ?
Oui, et les interactions sociales en général, je peux avoir des difficultés avec et la famille ou même dans le milieu associatif, il y a très vite des trucs qui m'énervent pour certains détails que je considère vraiment importants. J'estime avoir le droit d'être énervé à ce moment-là, c'est légitime. Le problème, c'est que pour la majorité des gens, c'est incompréhensible et que le fait que je m'énerve, finalement, n'angoisse que moi. Et que pour autrui, comme c'est incompréhensible, ça n'avance à rien. Donc ça n'améliore pas ma situation de m'être énervé à ce moment-là.
D'accord.
Puisque, dans un monde normal, il y a être humain A qui fait quelque chose de pas bien envers être humain B. Être humain B s'énerve. Être humain A se dit « merde, j'ai fait quelque chose de mal » et il se rabiboche. Dans ma situation, être humain A fait quelque chose qu'il ne considère pas comme mal puisqu'il ne se rend même pas compte qu'il a fait quoi que ce soit à être humain B. Être humain B s'énerve, être humain A ne comprend pas et on ne se rabiboche jamais.
Ouais.
Et ça m'arrivait tout le temps. Ouais, parce que ce qui est important pour moi peut pas être non important pour autrui, mais juste invisible.
D'accord.
Par exemple, le fait que les autistes perçoivent mal le ton peut avoir comme conséquence une attention très particulière à la moindre variation de ton. Et donc, une personne va me dire quelque chose et je vais analyser la moindre variation de ton dans ce qu'il dit. Et donc, je peux m'énerver parce que tu m'as dit ça sur ce ton-là, ce qui laisse supposer tout un tas de sous-entendus qui peuvent être présents ou pas, mais en tout cas, le ton dit plein de choses. Mais peut-être que la personne ne s'est même pas rendu compte de tous les détails de ton l'a employé, que moi j'ai perçu.
Ouais.
J'ai surperçu quelque chose. Et je n'étais pas en tort en soi, mais j'ai été plus blessé que ce que la personne pouvait légitimement espérer. Ouais. Et peut-être qu'elle voulait me titiller sur un truc, elle ne voulait pas me blesser. Donc le fait que je réagisse comme si elle m'avait planté un couteau dans le dos, c'est totalement démesuré pour elle, elle ne comprend pas. Ça, je le vivais tout le temps. Et en tout cas, trop souvent. Et donc la démarche et diagnostic, c'était faire en sorte que ce genre de choses s'améliore. Et ça, et ben, à mon sens, aller voir un psychiatre, ça ne servait pas à ça. Le psychiatre, c'est fait pour avoir un diagnostic, pour comprendre son fonctionnement, mais ça, j'étais au point.
Et donc, après avoir vu ce psychiatre, qu'est-ce que tu as fait ?
Eh bien, j'ai forcé. J'aimerais intégrer un groupe qui est dans l'action. Et du coup, j'ai poussé la psychiatre à pousser Sainte-Anne à me prendre dans un groupe. Et il se trouve que j'ai eu un bol extraordinaire.
Ouais.
C'est que Sainte-Anne était en train de mettre au point un protocole SKITA, et il n'avait plus du tout de place a priori, sauf qu'a priori, c'est pas a posteriori. Dans le a priori, il y a plein de gens qui veulent participer, puis après on leur dit, voilà, c'est tel jour à telle heure, ah ben non, mince, je peux pas. Et du coup, il y a eu un trou.
Et t'as eu la place.
J'ai eu la place.
Et pour toi, Quentin, comment s'est passé ce parcours du diagnostic ?
Globalement, là, toutes les étapes jusque-là ont été assez transparentes pour moi.
D'accord, donc vous étiez ensemble à ce moment-là pendant ces différentes étapes, d'accord.
Oui, on était ensemble, donc je l'ai vu mener sa barque paisiblement, mais effectivement, je n'ai pas spécialement été sollicité, ça ne s'est pas ressenti, parce que même quand il est très insistant... En général, il obtient quand même relativement rapidement ce qu'il veut, ce qui fait que finalement, moi, j'ai pas eu à subir de stress, d'angoisse, de est-ce que ça va bien se passer, ce qu'il recherche. Finalement, tout ça s'est déroulé de façon assez fluide de mon point de vue. Mais en revanche, ce que j'ai vraiment senti, ça a été l'avant et l'après, notamment l'avant et l'après Skita, puisqu'on a parlé de l'interaction, de la surinterprétation des intonations, j'ai vu des changements et des progrès et qui ont eu des conséquences pratiques, en particulier dans le domaine professionnel. Mais ça, peut-être qu'on en parlera quand on sera un peu plus avancé sur l'historique du diagnostic. Ça a eu effectivement de très bons impacts au niveau professionnel. Je pense que c'est là que ça a été le plus visible. Et moi, ça m'a été profitable aussi parce que ça m'a permis d'apprendre à connaître peut-être un peu plus scientifiquement quelque chose qui était très vague pour moi. J'avais pas d'a priori négatif sur l'autisme, mais globalement, on m'aurait demandé quelle était la consistance, quels étaient les symptômes particuliers qu'on pouvait reconnaître. Je me serais contenté à peut-être mal interpréter les expressions, les émotions, point barre.
D'accord.
Ce qui est quand même assez maigrichon quand on y réfléchit bien. Et cela dit, aujourd'hui, j'ai toujours des difficultés à parfois spontanément penser à quels sont les symptômes. Et donc c'est vrai que quand on parle de situations pratiques de la vie de tous les jours dans lesquelles ça s'illustre, je pense pas forcément spontanément à tiens, ça c'est lié à l'autisme, tiens, ça c'est lié à sa bizarrerie naturelle que tout un chacun a. Mais j'ai quand même vu beaucoup de progrès effectivement entre avant Skita et après Skita notamment, parce que ça a été très efficace.
Et du coup, ton diagnostic avait été posé avant Skita?
Oui, mais
de combien
presque,
de temps à peu près?
Je dire quelques jours, ce sera exagéré, mais il y a entre le moment où le diagnostic a été officiel et le moment où je commençais à m'introduire dans Sainte-Anne, moins d'un mois. Ça a été vraiment très
et comment tu as vécu cette annonce du diagnostic?
Moi, ça m'a rien fait, je le savais déjà.
Oui.
Et donc, il n'y avait aucun doute. Si on m'avait dit « vous n'avez pas le syndrome d'Asperger », j'aurais rigolé. Et d'ailleurs, si on jette un coup d'œil à Twitter, le cas de l'autiste qui ne s'est jamais fait dépister est presque la norme. La plupart des autistes, quand ils découvrent qu'ils sont autistes, ils ne cherchent pas à le faire confirmer par un médecin, parce qu'il n'y a pas de doute. C'est d'ailleurs très dérangeant de voir des espèces de mettre la bonne pensée qui vont vers des autistes autodéclarés en leur expliquant que non, t'as pas fait médecine, donc tu fermes ta bouche, t'es pas autiste, t'en sais rien. Ce qui est profondément blessant pour les autistes, c'est-à-dire concrètement, quand on est autiste et qu'on va voir la page Wikipédia autisme, je vous assure qu'il n'y a pas de doute. Hein. on sait qu'on est dedans. Il n'y a pas besoin du professionnel. Et donc, bon, voilà, l'annonce du diagnostic était absolument non nécessaire. D'accord. Pour moi. Le seul avantage à avoir un diagnostic, c'était d'avoir accès à certains parcours de soins, entre guillemets. Et je mets des guillemets parce que ça présuppose que c'est une maladie, peut-être. Et si c'est une maladie, bien, je suis heureux d'avoir été contaminé. Et bref, donc non, pas de transition de ce point de vue-là.
Et comment ce diagnostic a eu un impact sur la relation, sur votre relation, mais aussi avec vos proches comment ça s'est passé?
Je pense que pour la plupart de mes proches, il était évident que j'étais bizarre. Mais non seulement il était évident que j'étais bizarre, mais pour certains de mes proches, il était évident que j'étais autiste. Mais j'en parlais absolument jamais. Vraiment jamais. Je n'employais pas le mot autiste avec mes proches, parce que justement, je ne voulais pas que le phénomène horoscope que je craignais pour moi-même fonctionne pour les autres. Eh bien, j'ai constaté que le fait d'en parler ne posait aucun souci. Et même au contraire. Certes, ça peut être considéré pour certains comme une excuse de dire « Ah oui, c'est juste l'autisme. Mm-hmm. » Est-ce que c'est si gênant? Oui. Peut-être qu'il dit « Il se comporte comme ça, c'est juste l'autisme. » Bah oui, en effet. C'est pas grave, c'est pas méchant de dire « C'est juste l'autisme. » Et ça peut éviter tout un tas de discussions. Par exemple, ça peut éviter le « fais un effort ». Et surtout, ça, je pense que ça a été le plus gros changement, on ne m'a plus jamais proposé de vider un verre de vin. Et je pense que c'est une conséquence intéressante du diagnostic qui est « plus personne ne cherche à me forcer à faire quoi que ce soit ». Que mes bizarreries sont intégrées et comme ne devant pas chercher à être corrigé.
Et est-ce que de ton côté, Quentin, il y a eu un impact sur...
Alors, oui, il y a quand même eu un impact, parce qu'effectivement, c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai pu voir dans son entourage direct l'intérêt finalement que ça a suscité, notamment chez sa maman, qui elle a été au contraire très curieuse. Ah bah, super intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, moi au départ, c'est vrai que j'étais un peu réticent. Le côté diagnostic, c'est vrai que je trouvais ça très intéressant de finalement de se connaître. Et j'étais un peu réticent sur le fait d'extérioriser le diagnostic sans forcément avoir d'informations précises sur puisque je suis autiste, ça peut expliquer telle chose. Moi, de mon côté, je peux travailler de telle ou telle façon. Donc le diagnostic brut me semblait peut-être un peu dangereux au risque de braquer justement les personnes qui connaissaient pas bien. Et finalement, je peux dire que la mère de Jean-Christophe a été plutôt rassurante sur ce point-là, parce que quand j'ai vu sa spontanéité à participer aux réunions, à une réunion d'information sur le syndrome d'Asperger à l'époque, mais l'idée est la même, je me suis dit, finalement, c'est-à-dire que les gens ne sont pas braqués spontanément parce qu'on leur parle d'autisme, ce qui est déjà plutôt un bon point. Et donc, de mon côté, ça m'a permis aussi de m'approprier l'expression, et ensuite les protocoles qui ont suivi, de voir ce qu'il apprenait au cours de ces protocoles, ce qu'on lui expliquait sur sa spécificité. Donc ça me permettait d'apprendre moi-même, et donc de pouvoir expliquer aux autres quand ils me posaient la question. Parce que le petit moment de latence, finalement, entre quand j'ai appris des choses de ces protocoles et le diagnostic, faisait que parfois je me retrouvais un peu à dire « bon, finalement, il est autiste ». Maintenant, ne me demandez pas précisément en quoi ça consiste, je ne saurais pas vous dire, hormis qu'il est bizarre et qu'il y a certaines de ses bizarreries qui s'expliquent. Et donc, c'est vrai que le post-diagnostic, en comprenant une partie des protocoles, m'a permis de dire à des personnes, très clairement, il a réagi de telle façon, il ne faut pas s'en offusquer, il ne faut pas être surpris, c'est lié au fait qu'il est autiste, c'est normal. Et en général, la réponse naturelle des gens, c'est « Ah bon, il est autiste, oui, il a de la chance, il a plutôt bien compensé son syndrome, mais oui, il a des spécificités, ah bon, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours ?» Et donc, ça permet des échanges assez enrichissants, que je trouve plutôt intéressants. Maintenant, c'est vrai que il arrive, mais c'est assez rare que les personnes réagissent en disant oui, bon, bah finalement, c'est parce qu'il est autiste. Moi, c'est pas ce qui me gêne davantage. Ce qui me gêne davantage dans la réception extérieure, c'est les quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, qui parfois ont l'impression que bah, l'autisme, comme c'est lié à un fonctionnement psychique, bah, en fait, c'est dans la tête, donc ça se contrôle. Et donc, à l'inverse, quand il m'est arrivé de dire, bon, bah, voilà, il s'est comporté de telle façon parce qu'il l'a interprété de telle manière, c'est lié à l'autisme. Et quand on me répond, bah oui, mais il pourrait faire un effort, parce que nous, on est normaux, entre guillemets.
Ouais.
Chaque fois, ça me coupe un peu dans mon élan. Et j'ai fini par trouver une réponse qui est, bah, finalement, si vous aviez un cul-de-jatte en face de vous, est-ce que vous lui demanderiez de faire un effort pour courir? Non, donc s'il n'est pas équipé pour comprendre la situation, bah, c'est pareil que quand on n'a pas de jambes pour courir. Le fait que ce soit indépendant de sa volonté, qu'on puisse s'améliorer, certes, par un travail, mais que ce soit indépendant de la volonté, fait que non, c'est pas juste faire un effort. Et en ça, le fait qu'on parle de diagnostic, de syndrome, je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça rappelle le côté, finalement, c'est hors de son emprise. Oui, bien sûr, on peut s'améliorer, mais comme n'importe quelle maladie, j'ai un mal de gorge, je prends un truc contre la toux, contre la douleur de la gorge, hop, les symptômes disparaissent. Mais finalement, la remédiation, les protocoles permettent de participer à ça, mais ça ne change pas fondamentalement la spécificité de fonctionnement. Donc je suis contre l'appellation maladie parce qu'il y a un côté travers, mais en même temps je suis pour parce que ça permet de faire comprendre aux personnes que ben, on n'a pas la maîtrise totale de ce qu'on fait. Alors ben, absolu, ça pourrait s'expliquer sans passer par l'appellation maladie. On pourrait juste rappeler aux gens que juste on n'a pas la maîtrise complète de notre psyché, mais c'est souvent plus compliqué. Voilà.
Tout à fait.
Mais donc voilà pour les impacts à mes yeux du diagnostic et de l'avantage que ça a présenté aussi pour les protocoles.
En quoi cet autisme a coloré votre relation?
Alors ça, c'est très facile comme question. Et ça l'a coloré que nous sommes un couple bizarre qui devons sans cesse faire l'effort de comprendre l'autre pour éviter de se taper dessus.
Et cette compréhension constante de l'autre, comment ça se passe?
Alors ça, c'est une question plus difficile.
Moi, je dirais plutôt en trois étapes. En général, un raté non verbal, une petite crise, et ensuite une explication verbale. Alors, ce qui est plutôt bien dans l'ensemble, puisque... moi, je suis un grand fan de tout expliquer, tout intellectualiser. Donc, du coup, ça satisfait mon penchant naturel pour ça. Mais comme j'ai la tendance à m'énerver un peu facilement, du moins je l'avais surtout au début, ça faisait qu'en général, je faisais quelque chose, je ne me rendais pas compte que c'était gênant. Pouf, petite crise. Et tout de suite après, on débattait de ce qui s'était passé, comment on en était arrivé là. Et finalement, au départ, on a eu plein de petites crises comme ça, relativement fréquentes, mais qui ont permis de comprendre ce qui chacun d'entre nous, comment ça fonctionne finalement. Bah, pour lui, ça avait fonctionné de telle façon du fait de ses spécificités. Moi, je n'avais pas du tout compris ça. Et donc, finalement, à force de se le dire explicitement, on a fini par avoir les codes. On a fini par avoir les codes, donc parfois même par provocation, utiliser ce code pour taquiner l'autre. Et c'est vrai que l'explication a été très efficace parce que j'ai remarqué que bah, les petits épisodes de crise, finalement, avaient fini par être de plus en plus éloignés les uns des autres. Il y en a encore, mais comme il y en a dans n'importe quel couple, finalement. Et
finalement... Si tu n'avais pas cassé l'assiette l'autre jour. Ça
et finalement, moi, je trouve ça très enrichissant parce que ça satisfait ma curiosité. Moi, j'ai toujours été très intéressé par les sciences humaines au sens large, mais par la psychologie, par toutes les sciences de l'esprit, dirais-je. Et donc, du coup, finalement, j'ai presque mon cobaye de tous les jours avec lequel je vis. Et en même temps, ça me permet d'échanger sur plein de choses. Et après, bon, il y a plein d'autres aspects qui sont très satisfaisants dans notre relation, notamment, je pense, aux intérêts spécifiques. Le fait qu'ils nourrissent des passions temporaires mais intenses pour tout un tas de sujets, comme je suis un grand curieux, finalement, ça m'attire éventuellement dans une passion temporaire et intense également, et donc ça fait naître des échanges très riches, ou à l'inverse, ça suscite un violent sentiment repoussoir, et donc je ne m'y intéresse pas du tout. Mais du coup, comme je suis quand même curieux, je finis par me plier à l'envie de savoir ce qu'il aura appris sur le sujet. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça crée une relation très riche sur le plan intellectuel et émotionnel, parce que il y a un échange de connaissances constant avec une réactualisation, avec des débats. Ça peut être parfois des débats plus ou moins mouvementés, mais c'est pas qu'intellectuel, puisque finalement ça permet aussi de travailler sur soi et de se dire mon conjoint qui est autiste a perçu mon comportement de telle façon, peut-être qu'une autre personne dans la même situation aurait pu également le percevoir de cette façon-là. Et je ne sais pas qu'elle est autiste. Et donc peut-être que dans la vie de tous les jours, il y a une personne que je blesse par mon comportement sans le savoir. Et même de façon plus large, finalement, ça permet de se souvenir que le petit bout de la lorgnette par lequel on voit notre vie n'est pas le seul aspect qui existe. Et donc potentiellement, notre intervention, notre comportement est perçu de façon très différente par d'autres personnes. Et même s'il est habituel d'essayer de se souvenir de ça, finalement, ça fait une petite piqûre de rappel concrète au quotidien. Voilà.
Et oui, je pense que le point clé de la réussite de notre relation, c'est l'explicitation. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être implicites dans le comportement humain. C'est fatigant pour moi. Alors, c'est très exagéré de dire que je suis sourd à tout ce qui est implicite. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont très énervés qu'on leur dise, par exemple, qu'ils sont incapables d'empathie. Ouais. Alors, en fait, moi, je ne suis pas outragé de ça. J'en fais une énorme fierté. Je ne suis pas du tout empathique, mais je suis plein de compassion. Et j'aime bien jouer sur ce mot-là. L'empathie, c'est le truc débile qui fait que tu vas aimer quelqu'un sans aucune raison. Mais ce truc débile qui fait qu'on aime quelqu'un sans aucune raison fait aussi qu'on n'aime pas quelqu'un sans aucune raison. Et le principe de l'empathie, c'est aimons ceux qui nous ressemblent. C'est la base du racisme. C'est la base de tout ce qui va mal dans ce monde. L'empathie, c'est la mort. La compassion, c'est le penchant intellectuel. C'est, de manière explicite, qu'est-ce que tu ressens ? Parle-moi. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et parce que tu me l'as expliqué, je peux internaliser tes propos et me demander qu'aurais-je ressenti à ta place ? Et au lieu d'essayer de rentrer dans les pompes d'autrui, de prendre tout ce que la personne m'a raconté, tout son vécu qui a été explicité, le rentrer dans ma vie, et essayer de voir ce que je ressens dans ce cas-là. Et ça, c'est la compassion. C'est une forme intellectualisée. Ce qui fait que je suis capable d'éprouver de la compassion pour n'importe qui. Cette personne n'a pas besoin de me ressembler. Et je suis capable d'éprouver une compassion infinie pour une fourmi, pour un chien, pour n'importe qui. Je suis capable d'éprouver une compassion gigantesque pour une chaise. Parce que peut-être que ça lui fait de la peine d'être cassé la peau. Ça fonctionne un peu comme l'empathie. Mm. Je pense que tout le monde a déjà vécu. On dessine un visage souriant, eh bien, on est capable de s'identifier. Ça, c'est l'empathie, c'est automatique. Et donc, ce qui est très différent dans ma version de l'empathie, c'est que quand je regarde ce visage, c'est pas juste je regarde un visage qui sourit et paf, je suis heureux. C'est je regarde un visage qui sourit et je me dis, tiens, quelqu'un a dessiné un visage qui sourit. Alors, quelqu'un. Et j'intellectualise à mort. D'accord. Et donc, je peux éprouver de la compassion en regardant ce visage qui sourit. Mais d'accord. Parce que c'est beaucoup plus riche. Parce que c'est plus riche, c'est aussi beaucoup plus fatigant. Et ça, c'est le problème de la compassion. C'est que cette empathie qui ne demande absolument aucun effort à quiconque, eh bien moi, la version compassion me demande un effort absolument surhumain. En permanence, j'ai besoin que les gens explicitent les choses. Il faut que je l'intègre, il faut que je le pense. En particulier, je perçois très bien les émotions sur le visage des gens, mais parce que je regarde la position des yeux, de la bouche, des oreilles. Je regarde s'il y a des rides au coin des yeux. je regarde tout un tas de détails. Ça me mange de l'énergie. Et donc, je suis capable d'une compassion probablement beaucoup plus grande que la plupart des gens, mais je ne peux pas faire ça toute la journée. Soyez cool avec moi, les gars. Ne me demandez pas de venir en salle des profs, par exemple, puisque je suis prof et qu'un de mes soucis, ça a été la salle des profs. Ah non, je suis désolé, mais passer un quart d'heure en salle des profs avec 30 personnes autour de moi et discuter 15 secondes avec plein de gens, ça me demande un effort surhumain. Et si je développe cet effort surhumain en salle des profs, eh bien, à la fin de la journée, je suis une personne aigre. Et comme je ne suis pas empathique et que je n'ai plus de ressources pour la compassion, je suis un sale type. Plutôt que de me laisser devenir un sale type en allant en salle des profs, la bonne solution, c'est de ne pas aller en salle des profs et d'être cet être formidable parce que je dis aux gens, je n'ai pas envie de vous voir.
D'accord.
Alors évidemment, ce n'est pas toujours super bien perçu que de dire, je n'ai pas envie de vous voir et c'est ce qui fait de moi un type formidable. Et c'est là que le diagnostic a beaucoup aidé, de dire aux gens, je suis autiste et c'est pour moi extrêmement dur de rester entouré de plein de monde, j'ai besoin de me ressourcer, d'être seul quelques instants pendant ce moment-là. Et bien, vous savez quoi? Les gens acceptent.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui apprend que son sa partenaire a un diagnostic de TSA, donc d'autisme?
Alors, je vais peut-être te laisser parler en premier, comme ça je te contredirai après.
Alors, spontanément, j'ai eu un conseil en tête et après réflexion, je pense qu'en fait il est mauvais, mais donc du coup je vais quand même le formuler.
Ouais.
Parce que le réflexe que j'aurais eu dans des circonstances différentes, donc en l'apprenant peut-être en cours de relation, à l'occasion d'un diagnostic, comme ça, boum, je pense que spontanément ce que j'aurais fait, c'est je me serais lancé dans de la lecture scientifique. Sauf que je pense que le gros défaut à ça, alors que je suis évidemment favorable à toute forme de lecture scientifique, mais je pense que le gros défaut, c'est de risquer de déshumaniser le symptôme, enfin les symptômes, donc le syndrome en lui-même, finalement d'en faire une maladie, comme on lirait sur le chikungunya, sans du coup donner d'implications pratiques, sans rechercher quels sont les impacts dans notre vie de tous les jours, quels étaient les impacts que ça avait déjà, finalement, c'est juste qu'on a mis un nom dessus. Et donc je pense que finalement, se lancer dans une lecture théorique, ça n'est intéressant qu'un peu plus tard. Donc peut-être que spontanément, il vaut peut-être mieux laisser cette lecture à la personne concernée, celle qui est vraiment touchée par le diagnostic, parce qu'il va y avoir ce premier filtre subjectif qui va s'opérer. Finalement, tout ce qui ne va pas la concerner dans le diagnostic va être mis de côté, en dehors de l'effet horoscope finalement. Bon, voilà, tout ça, non, ça ne me concerne pas. Mais ça, oui, effectivement, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, je fonctionne comme ça. Et donc, la personne concernée va spontanément venir voir, a priori, son ou sa partenaire en disant, oui, tiens, j'ai appris que je faisais ça parce que c'est lié à l'autisme. Et là, va y avoir une véritable illustration concrète. Et je pense que c'est à partir du vécu qu'il faut partir pour essayer de se rendre compte que finalement, c'était des choses qu'on supportait déjà ou qui nous agaçaient déjà, comme tout un chacun, que c'est lié à un fonctionnement spécifique, que du coup, en contrepartie, il y a peut-être des remédiations spécifiques. Mmh. Et finalement, c'est une fois qu'on a compris quels étaient les enjeux pratiques qu'on peut se renseigner sur comment ça change, comment on peut aider au quotidien. Moi, je sais que, à nouveau, au tout début du parcours de diagnostic, pareil, il y avait une association qui expliquait que finalement, le plus proche, ou du moins les proches de la personne concernée, devaient jouer le rôle de traducteur à l'extérieur. Que finalement, l'autiste, c'était le petit martien qui débarquait sur Terre, donc il n'avait pas forcément tous les codes. Bien sûr, il y avait des trucs similaires et d'autres pas. Ce n'était pas le même monde. Et donc, finalement, en connaissant bien notre autiste, et en connaissant bien le monde dans lequel on vit et qui nous semble tout à fait normal, on pouvait réussir à faire cette jonction. Et finalement, pour pouvoir jouer vraiment ce rôle, je pense qu'il faut avoir réussi à identifier d'abord, dans la vie de tous les jours, quelles sont les hypothèses où justement il se sent comme un martien. Parce que moi, quand on m'a dit il va falloir jouer le rôle de traducteur, sur le moment, je me suis dit oui, mais en fait, dans la vie de tous les jours, je ne vois pas à quelle occasion je vais jouer le rôle de traducteur. Et c'est que plus tard, avec Skita, que chaque fois quand il rentrait et qu'il me disait « Oui, alors j'ai appris qu'il va falloir faire tel exercice ensemble », je me suis dit « Ah bah oui, donc ça veut dire que ça, dans la vie de tous les jours, quand je dis rien, en fait, pour lui, c'est incompréhensible. Et donc, ça a permis aussi de créer cette complicité de traducteur à traduit qui peut fonctionner que sur la base de vraiment d'expériences de vie. Donc, je pense que finalement, la lecture est évidemment essentielle. Enfin, moi, déjà, j'adore ça. Donc, évidemment, en apprendre plus est intéressant. Mais si on a envie de lire, je pense qu'il faut d'abord se forcer presque à mettre sur une feuille ce en quoi, dans la vie de tous les jours, ça a un impact. Sauf que la meilleure personne pour nous dire en quoi ça a un impact dans la vie de tous les jours, bah, a priori, c'est la personne qui fait l'objet du diagnostic. Donc, la lecture après, et les expériences concrètes d'abord, je dirais.
Ok. Et pour ça, Jean-Christophe ?
Du coup, j'aurais deux conseils. Le premier conseil, c'est... Pour celui qui n'est pas autiste dans le couple, accepter une réalité toute simple, c'est que quels que soient les efforts qu'il fait, ce sera moins que les efforts que fait l'autiste.
Et j'approuve.
Alors, je prêche pour ma paroisse, mais concrètement, moi, je dois faire des efforts en permanence pour communiquer avec autrui. Et c'est épuisant. Et si la personne avec qui je vis m'oblige à faire des efforts avec elle aussi, eh bien je m'épuise encore plus et en plus je m'épuise chez moi au seul endroit où je suis censé pouvoir me reposer. Et donc le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui ne m'oblige pas à cet effort supplémentaire, c'est déjà beaucoup. Et si en plus il peut de temps en temps faire diminuer l'effort, c'est énorme. Et du coup, si vous êtes dans cette situation où vous savez que votre conjoint est autiste, bah peut-être posez-vous la question de but en blanc. Suis-je capable de réduire à zéro son niveau d'effort en ma présence, voire prendre une partie de cet effort sur moi ? Si la réponse est non, autant lui annoncer tout de suite que vous n'êtes pas prêt à faire cet effort et qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que sinon, vous lui ferez souffrir.
Et est-ce que vous avez des projets donc, d'avenir chacun de votre côté ou... et
ensemble ? Non, on a...
pas de projet chacun de son côté, c'est
non,
ça ?
Pas de projet chacun.
Que des projets ensemble.
Ah, oui. Et aller en vacances. Non, tu pensais à quelque chose ?
Bah, a priori, continuer la vie ouais, telle qu'elle se présente.
Pas changer grand-chose. Bon, il y a un gros débat sur la parentalité.
Oui.
Mais on va sûrement trouver un moyen de gérer la question.
D'accord.
Pas tout à fait.
Évidemment, par l'absence d'urgence de la question.
Oui, on est tout d'accord sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de régler le problème dans un avenir proche. Et comme. Voilà.
Mais globalement, oui, continuer à essayer de se comprendre et à s'enrichir l'un l'autre. Déjà, ça me semble être un
projet
assez dense. Et finalement, je sais que pour ma part, même si je l'ai supporté dans le sens. Je l'ai soutenu durant son processus diagnostique, premier protocole. Finalement, j'ai eu un rôle assez passif jusqu'à il y a quelques temps, puisque pour ce qui t'a, ce qui est intéressant, c'est que les personnes autistes avaient des exercices à faire à la maison, mais ramenaient à la maison l'exercice en disant juste, bon, voilà, toi, tu auras telle participation, mais en tant que proche, on n'avait pas vraiment d'impact actif. Et finalement... là, je me sens davantage mobilisé, finalement, par ma présence ici.
Ouais.
Et puis, juste avant, dans le protocole étape, le fait d'avoir participé dans le groupe proche, essentiellement sur l'insistance de Jean-Christophe, puisqu'il m'a dit « Ah bah tiens, sur tel thème, t'auras des trucs à dire aux proches. » Et sur le moment, je me dis « Non, j'ai rien à dire, parce que finalement, j'ai l'impression d'avoir rien fait depuis le début.
Mm-hmm.
Je fais quelques efforts, je me suis documenté vaguement, mais j'avais pas l'impression d'avoir eu un gros impact. » Et du coup, mon projet, c'est de continuer, autant qu'il voudra me solliciter, à participer à sa connaissance, à sa découverte, à son explication de l'autisme à l'extérieur. Puisque au départ, je me sentais tout à fait en retrait, sans impact. Puis je me suis rendu compte que finalement, même les trucs qui me paraissaient parfois très simples pouvaient apporter des réponses à des personnes qui n'avaient pas encore trouvé cette réponse-là à des situations. Et donc je me dis, finalement, si je peux aider et que ça lui fait plaisir d'avoir à supporter également dans ses projets pour l'autisme, et finalement, ça fait un projet ensemble supplémentaire que j'accepte avec grand plaisir.
Et oui, du coup, tu fais référence à Étape, qui était un autre projet de Sainte-Anne, où là, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe pour les autistes et un groupe pour les proches. Et on a tous les deux fait quelques interventions, pas en tant que patient,
mais en tant que co-animateur.
Voilà, en tant que co-animateur. Et je pense que ça a été enrichissant aussi pour nous deux de participer à ça. Déjà, ça m'a fait revenir à Sainte-Anne, ça m'a fait aussi participer à ce podcast. Et d'ailleurs, je crois avoir oublié un conseil important, hein, que ce soit pour l'autiste ou pour l'accompagnant autiste. Ben, il se trouve qu'il y a de très bons podcasts sur l'autisme et suivre quelques podcasts, soit entretenus par des professionnels qui invitent des autistes, soit par des autistes qui parlent en première personne, c'est intéressant parce que ça permet de rentrer dans ce monde-là et de soit de se comprendre soi-même, soit de comprendre l'autre.
Sur ces très beaux mots de fin, merci d'être venu, merci d'avoir participé à cet épisode. C'était Lumière sur le spectre, l'autisme révélé, et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci pour votre écoute. On aimerait remercier aussi toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce podcast. Bruno et Morissette pour tous les moyens techniques, Sophia, Max et nos autres co-animateurs, et surtout nos invités qui nous ouvrent la porte de leur intimité à chaque épisode. Notre espoir, c'est que ces partages d'expériences participent à enrichir des réflexions individuelles et sociétales, et pourquoi pas à vous soutenir dans votre parcours personnel. On espère pouvoir tenir un rythme de 2 épisodes par mois. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de votre expérience sur notre compte Insta, C3RP, Réhab Psychosocial. À bientôt !